Bonjour à tous. En ce dimanche matin, Camilla Gross vous invite à rejoindre l'abbé Pierre d'Escouvemont autour du thème de la joie. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je vous le dis encore, réjouissez-vous. Ce sont les paroles qui ont marqué la vie du Père d'Escouvemont que nous retrouvons tout de suite. Abbé Pierre d'Escouvemont, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Vous êtes venu prêcher une retraite à Pensier qui traite de la joie. Qu'est-ce que la joie ?
Oh, vous me posez une question difficile. C'est cette espèce d'épanouissement de l'être lorsqu'il s'aperçoit que il est profondément aimé. Je pense que le grand désir de l'être humain, c'est d'aimer et d'être aimé. Donc, il y a la joie humaine des fiancés qui viennent de se fiancer et qui sont heureux d'avoir découvert l'âme sœur, j'aime pas cette expression, mais enfin l'être conjoint. Il y a la joie de l'enfant qui est aimé par ses parents, et puis il y a la joie de l'enfant de Dieu qui se sait infiniment aimé par son Père du ciel.
La joie est en lien avec l'amour ?
C'est évident, oui, c'est évident, oui. Bon, à condition de ne pas oublier qu'il y a la joie de rire, par exemple, la joie de travailler, la joie de jouer. Vous savez, j'aime beaucoup l'analyse aristotélicienne du plaisir. À savoir que le plaisir, dit Aristote, c'est ce qui accompagne toute activité humaine. Le plaisir, c'est ce qui s'ajoute à une activité comme la beauté à la fleur de la jeunesse, dit Aristote. C'est-à-dire qu'un visage jeune est normalement beau. C'est très difficile de distinguer l'aspect plaisir de l'activité. Il y a le plaisir de jouer, le plaisir de rire, le plaisir de travailler, le plaisir d'enseigner, le plaisir de faire du jardinage, le plaisir de skier. Il y a autant de plaisir que d'activités humaines. C'est l'analyse philosophique d'Aristote que j'aime beaucoup. Et donc, la valeur du plaisir vient de la valeur de l'activité.
Père d'Escouvemont, pourrions dire que la joie est le plaisir lié à l'amour.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a le plaisir d'aimer et d'être aimé qui est l'un des grands plaisirs de l'être humain. Mais justement, il y en a d'autres. Il n'y a pas que le plaisir de l'amour dans la vie. Mais enfin, je pense qu'on va surtout parler de la joie chrétienne qui est justement liée à la foi en l'amour de Dieu pour nous.
Et à la fois dans sa présence.
Dans sa présence et dans son amour. Vous savez que l'une des grandes vérités que j'aime prêcher en ce moment, c'est ce mystère de la providence divine. Tout est grâce, disait la petite Thérèse, il faut prendre tout en gré, disait Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que le chrétien ose croire sur la parole de Dieu, que quoi qu'il arrive, il est infiniment aimé de Dieu. Il est l'enfant chéri de Dieu. Les événements malheureux qui viennent entraver son existence ne le déstabilisent pas parce qu'il est persuadé avec saint Paul que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que cette joie chrétienne est compatible, bien sûr, avec la tristesse, puisque Jésus lui-même a connu la tristesse à Gethsémani. La tristesse n'est pas forcément un péché.
Et donc, quand saint Paul nous dit « Restez joyeux », est-ce qu'on peut l'entendre comme un commandement ?
Certainement, c'est un commandement. Et personnellement, ce petit verset de Philippiens, chapitre 4, verset 4, a eu beaucoup d'influence dans ma vie. Parce que lorsque je suis tenté d'être triste, suite à une déception apostolique, suite à une gaffe que j'ai faite, j'écoute le Seigneur me dire en direct « Petit Pierre, sois quand même joyeux ». Cela ne doit pas t'empêcher d'être joyeux. Tu as le droit d'être triste, attention. Tu as le droit d'être triste parce que une personne est en train de divorcer, par exemple, parce qu'une personne vient d'apprendre que son fils s'est suicidé. C'est évident que j'ai le droit et même le devoir de compatir à toutes ces tristesses. Mais le Seigneur me dit, tu as le droit et le devoir de rester joyeux parce que je t'ai annoncé dans l'Évangile des raisons d'être joyeux. La grande idée que j'aime bien te faire passer, c'est que si j'ai des raisons d'être triste, j'ai en même temps des raisons d'être joyeux, qui ne suppriment pas ma tristesse, mais qui me permettent d'être en paix à une autre profondeur.
Et ces raisons d'être joyeux sont liées à la personne du Christ ?
C'est lié à toutes les vérités que le Seigneur est venu nous annoncer. Alors c'est lié notamment à la présence de Jésus ressuscité dans ma vie. J'aime beaucoup penser que Jésus me sourit, que Jésus m'empoigne, que Jésus me parle, mais c'est lié aussi justement à l'enseignement que Jésus nous a donné. Hein? C'est l'Esprit Saint ne produit le fruit de joie dans notre cœur qu'en y faisant retentir des paroles de la Bible. Suivant un jeu de mots que je n'ai pas créé mais que j'ai entendu, l'Esprit Saint, c'est l'espèce de souffleur que Dieu nous donne. Lorsqu'on joue du théâtre, il y a dans la trappe quelqu'un qui vous rappelle les réparties que l'on doit donner, c'est le souffleur. Bien, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle, qui nous souffle ce que Jésus a dit une fois pour toutes sous Ponce Pilate et qu'il nous redit aujourd'hui et qui est source de joie.
Et qu'a dit Jésus pour nous donner cette joie?
Il nous a dit beaucoup de choses, c'est tout l'Évangile. Hein? Alors, par exemple, il insiste sur le fait que si le Père du Ciel s'occupe du moindre moineau, a fortiori, il s'occupe de ses enfants chéris. Vous voyez, il y a toute une tendance aujourd'hui à ne pas croire à la providence sous prétexte que Dieu nous a laissé la liberté d'organiser ou de désorganiser le monde à notre guise. C'est vrai. Mais même si Dieu nous a laissé la liberté, si nous sommes entièrement responsables de ce que nous faisons, mystérieusement souligné 10 fois ou 100 fois, mystérieusement, c'est Dieu qui mène le monde. C'est Dieu qui est le maître des temps et de l'histoire, comme dit la liturgie. Par conséquent, Dieu se sert du mal pour réaliser le bien. Hein? Alors tous les saints ont beaucoup médité là-dessus. Par exemple, Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église qui était patriarche de Constantinople et qui s'est beaucoup battu pour que les riches partagent avec les pauvres, qui, comme tous les chrétiens, a été un militant. Eh bien, Saint Jean Chrysostome dit, le développement des hérésies, par exemple, ça fait partie du plan de Dieu. C'est extrêmement mystérieux. La division entre chrétiens, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est évident. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons toutes nos forces au rassemblement de toutes les églises, l'écuménisme. Il n'empêche que si Dieu a permis que pendant des siècles, les chrétiens se divisent comme ça, c'est pour des raisons qui nous échappent. Hein? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà une parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains qui a aidé des milliards de chrétiens à accepter leurs épreuves sans trop rouspéter, tout en disant au Seigneur, pourquoi ? J'ai le droit de dire, Seigneur, vraiment, tu exagères. Seigneur, tu es bizarre. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, trop c'est trop. La Bible elle-même, les psaumes nous font dire cela. Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Les eaux me submergent la tête. Mais ensuite, on dit, Seigneur, puisque tu le permets, tu as tes raisons et je continue à te sourire.
Abbé Pierre d'Escouvemont, c'est à partir de là, de cette reconnaissance de la présence de Dieu qui guide le monde, que naît la paix du cœur ?
La sérénité du cœur. Je me rappelle un mot qui m'a frappé il y a bien longtemps lorsque je faisais une retraite ici en Suisse. J'ai été jeune prêtre et je me souviens qu'au cours de cette retraite, j'ai été très frappé par un verset de l'Évangile selon saint Jean. « Dans le monde, vous aurez des difficultés, dit Jésus, mais en moi, vous aurez la paix. » Et c'est un mot qui a profondément marqué toute la spiritualité. J'ai compris une fois pour toutes que c'est en restant dans le Christ Jésus, cette expression qui revient 159 fois sous la plume de saint Paul, c'est en restant dans les mains de Jésus, dans le Christ Jésus, que je resterai dans la paix. J'aime bien dire que les bras de Jésus, c'est l'espèce de char blindé dans lequel je me réfugie au moment de la difficulté. Seigneur, j'accours. Hein? C'est ma forteresse, c'est le lieu de mon refuge, c'est le lieu de mon repos. Entre ses bras divins, chante Thérèse, je ne crains pas l'orage. Le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. Dans les tempêtes de mon existence, je me réfugie comme un enfant dans les bras de sa maman, comme un soldat blessé chez son infirmier, comme une petite brebis blessée dans les bras de son bon pasteur.
Au milieu des souffrances, des tentations, des tempêtes, est-ce qu'il suffit juste de lever son regard sur Dieu pour recevoir sa paix ?
En un sens, oui. Saint Jean de la Croix, dans une page célèbre, nous explique qu'il y a deux façons de résister aux tentations. Une façon qui n'est pas très efficace et une autre qui est très efficace. Quand dit-il, je suis profondément remué par une tentation où le corps participe beaucoup, les tentations d'impureté et les tentations de colère. Il y a une première façon de faire qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas très efficace. Ce n'est pas beau. Lors de ma dernière confession, j'ai encore pris la résolution de ne plus le faire. Il ne faut pas le faire. Saint Jean de la Croix remarque qu'on est souvent vaincu lorsqu'on se contente de faire comme ça. Il y a une autre façon, c'est de quitter le champ de bataille et de lever les yeux vers le Seigneur. Seigneur, j'accours. S'il te plaît, Seigneur, porte-moi. Au lieu de regarder la tentation, au lieu de regarder l'adversaire, on fuit le champ de bataille. Ce n'est peut-être pas très glorieux, mais c'est extrêmement efficace. Jésus, Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Au lieu de réfléchir à la tentation et aux raisons qu'on aurait de ne pas y succomber, on se contente de regarder Jésus. Et c'est extrêmement efficace. Ou bien, on se met sous le manteau de la Sainte Vierge. On quitte ses préoccupations. On se laisse vraiment attirer, fasciner par le regard de Jésus et dans ses bras.
Est-ce que c'est le mouvement que l'on peut vivre dans la souffrance ?
Je pense que oui. Bon, attention, lorsqu'on souffre physiquement, par exemple, on ne peut pas oublier sa souffrance. Quand on a énormément mal à la tête, on ne peut penser qu'à son mal de tête. Donc c'est vrai qu'on a le droit de dire « Seigneur, trop c'est trop ». On a le droit de dire sa souffrance à Dieu. Mais tout au fond de soi-même, on dit « Seigneur, tu sais pourquoi. Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter ma souffrance seconde après seconde. » Comme le chante la petite Thérèse, « Si je songe à demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. » Rien que pour aujourd'hui. L'aujourd'hui de Dieu, comme disait le frère Roger dans un magnifique petit livre. La mystique de l'instant présent est essentielle pour... De minute en minute, disait la petite Thérèse, on peut beaucoup souffrir. Vous savez que le curé d'Ars avait été très, très admiratif d'une phrase qui avait été prononcée par un petit bonhomme qui souffrait beaucoup dans sa clinique. Et le curé d'Ars était allé le voir. « Alors, mon petit bonhomme, tu souffres beaucoup ?»« Bon, monsieur le curé, je ne souffre plus de la souffrance d'hier et je ne souffre pas encore de la souffrance de demain. » Et le curé d'Ars, qui aimait les mots d'enfant, répétait souvent cela pour expliquer à ses paroissiens qu'il devait essayer de vivre comme Jésus le dit, « À chaque jour suffit sa peine. »
Chaque homme souffre dans sa vie et le Christ est venu partager la souffrance humaine.
Alors, on insiste beaucoup sur le fait que Jésus est venu partager notre souffrance. Et c'est vrai, c'est énorme, Dieu qui souffre. Nous nous sommes habitués maintenant à voir un peu partout des calvaires au carrefour de nos villages. Mais c'est énorme, Dieu qui souffre, mais c'est un cercle carré. Bon, seulement, il ne faut quand même pas oublier qu'il souffre dans sa nature humaine. Le Concile de Chalcédoine, 451, a bien distingué. Quand même, c'est Dieu qui souffre, mais dans sa nature humaine. Bon, donc, Jésus n'est pas seulement venu nous dire « Regarde ton crucifix et rappelle-toi que moi aussi j'ai souffert. » Jésus est venu nous dire des choses que nous écoutons dans la première partie de la messe et qui sont source de consolation. Jésus n'est pas seulement un modèle de sérénité dans la souffrance, mais aussi il est venu nous donner des nouvelles de l'éternité que nous n'aurions pas pu découvrir par nous-mêmes. Et c'est quand même, pas oublier, l'aspect prophète de Jésus qui vient nous confier des secrets. « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, car tous les secrets de mon Père, je vous les ai fait connaître. » Si l'on fait de la théologie, c'est pour pénétrer ces merveilleux secrets que le Seigneur est venu nous révéler.
La découverte de ces secrets procure la paix, la confiance qui déborde en joie.
Oui, qui déborde en joie, ou en paix, vous avez raison. Vous savez qu'en français, il faut bien distinguer la paix et la joie. La joie, en français courant, connote une certaine euphorie qui n'est pas toujours possible, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je me contente de dire à la fin d'une messe de mariage ou d'une messe de Pâques, « Allez dans la paix du Christ ». Parce que si je souhaitais la joie à tout le monde, des personnes en plein deuil auraient l'impression que je me moque d'elles. Je pourrais le faire, puisque saint Paul nous dit d'être toujours joyeux, et que Jésus le même lui dit, « Je vous ai dit tout cela pour que vous partagiez ma joie », mais vraiment, c'est une joie dans les profondeurs du cœur. On ne dira jamais assez que Jésus a connu ce paradoxe d'être à la fois l'être le plus heureux et le plus douloureux qui soit. Ce que Jean-Paul II a rappelé à l'occasion du troisième millénaire. Jésus a été l'homme des douleurs. Il n'a pas seulement souffert lors de son agonie au jardin des Oliviers. Écœuré qu'il a été par le péché du monde, il en a souffert énormément dès le début de son existence. Mais en même temps, on peut dire et on doit dire que Jésus a été l'être le plus heureux qui ait jamais vécu sur la planète. parce qu'il se savait le fils bien-aimé du Père, et même sur la croix, remarque Catherine de Sienne, il devait jubiler à la pensée qu'il était en train de sauver l'humanité. Et nous, à l'exemple de Jésus, nous essayons de vivre cette coexistence possible entre de très grandes agonies et une très grande paix.
Peut-on dire que Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix, vivait cette même réalité de souffrance et de joie au fond du cœur?
Je le pense, même si l'Évangile n'en dit rien. Marie est à la fois Notre-Dame de Liesse et Notre-Dame des douleurs. J'ai fait un livre, Marie au cœur de nos vies, où je consacre tout un chapitre à cette mystérieuse coexistence en Marie d'une très grande paix et d'une très grande douleur. Et alors, ce qu'il importe de rappeler, c'est que dans le ciel, alors, la Sainte Vierge est à la fois très heureuse et très compatissante. C'est encore un mystère fondamental de notre foi, que Dieu est infiniment heureux, Beata Trinitas, mais qu'en même temps, il est d'une compassion extraordinaire. Mais une compassion qui ne comporte pas la passion, qui ne comporte pas la tristesse. Hein ? J'aime bien citer ce mot de Marthe Robin, qui disait lorsqu'elle revivait les stigmates le jeudi soir, « C'est Jésus qui souffre en moi, mais Jésus dans sa gloire. » C'est d'une merveilleuse netteté théologique. « C'est Jésus qui souffre en moi, c'est Jésus qui revit en moi le mystère de sa passion. C'est vraiment Jésus qui est en moi et qui souffre, et pourtant il ne souffre plus. C'est Jésus dans sa gloire. » C'est le mystère, ça. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on aurait une petite tendance à penser que Dieu souffre. Il y a en Dieu quelque chose qui ressemble à la souffrance, mais qui n'est pas la souffrance. Hein ? Maurice Zundel, que vous aimez bien en Suisse, insiste beaucoup là-dessus. Tout en insistant sur la pauvreté de Dieu, il insiste sur le fait qu'on n'a pas le droit de nier que Dieu est la joie absolue. Dieu est un océan de joie. Dieu est essentiellement joie. Car Dieu fait tout infiniment. Si Dieu était souffrance, il serait souffrance infinie et éternelle. Ça n'irait pas ça. Mais il faut maintenir cette espèce de... Il y a en Dieu quelque chose qui ressemble à la souffrance humaine. C'est fondamental. Dieu est fondamentalement compassion. Mais une compassion qui n'est pas passion. C'est là le mystère. Et lorsque je serai dans le ciel, assez vite j'espère, bon, eh bien je communierai à cette passion de Dieu pour les hommes qui ne comportera pas de souffrance. Mes parents, s'ils sont dans le ciel, compatissent à ce qui m'arrive de mauvais, mais n'en souffrent pas vraiment. De même mon ange gardien.
On peut déjà s'approcher de cette manière de vivre sur cette terre.
C'est vrai, c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le deuxième livre que j'ai composé « Sur la terre comme au ciel ». Hein, c'est-à-dire que la vie éternelle est déjà commencée. Quand Jésus parle, il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède, à l'indicatif présent, la vie éternelle. » Donc la vie éternelle est déjà commencée. Comme disait la petite Thérèse, « Dans le ciel, je verrai le bon Dieu, c'est vrai. » Mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. Donc on peut dire que nous anticipons quelque peu sur la terre la joie du ciel. Il n'empêche que ce sera profondément différent. Parce que sur la terre, nous nous contentons de croire que Jésus nous regarde et nous sourit, mais nous ne le voyons pas. Sur la terre, nous croyons que Jésus nous empoigne, mais nous ne sentons pas les mains de Jésus. Tandis que dans le ciel, le visage de Jésus, nous le verrons, et les mains de Jésus nous tomberont dedans. J'aime bien évoquer la joie du ciel avec cette strophe chantée par Jean-Claude Janada. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu ? Oh, j'apercevrai ton visage. Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Et quand je chante ça, je pense à un papa qui joue avec son jeune enfant et qui lui dit « Tu ne passeras pas ». Il tend les bras et l'enfant se précipite dans les bras du papa pour forcer le passage. Eh bien, dans le ciel, nous tomberons définitivement dans les bras de Jésus. Sur terre, nous savons que nous sommes de temps, tandis que dans le ciel, on se sentira éternellement entouré, enveloppé par les bras pleins de tendresse de notre époux divin. Car il ne faut pas oublier que Jésus nous aime avec la tendresse d'un époux qui aime son épouse. « Viens ici que je t'embrasse. » C'est comme ça que j'essaye de vivre toutes mes communions eucharistiques. C'est Jésus qui empoigne un des membres de son église, de son épouse, pour lui communiquer toute sa tendresse. Pour l'empoigner, viens ici que je t'embrasse et que je te guérisse et que je te réjouisse et que je te béatifie.
Abbé Pierre d'Escouvement, Dieu nous précède toujours dans le don de son amour et donc dans le don de sa joie.
C'est vrai, Dieu, il faut accepter d'être aimé par Dieu. Lorsque nous avons la chance d'avoir un travail passionnant, nous risquons d'aimer notre travail plus que Dieu. Dans la prière, je laisse un peu tomber mon travail pour me laisser aimer par Dieu. J'aime bien le mot qu'employait l'abbé de Rancet, celui qui a réformé les cisterciens au XVIIe siècle. Il disait à ses moines, en utilisant un mot français qu'on n'utilise plus aujourd'hui, « Pratiquez, messieurs, l'art de la désoccupation. » C'est-à-dire, occupez-vous de votre travail sans trop vous en préoccuper. On aurait ça au début des exercices spirituels de saint Ignace. C'est une grande tradition, quoi. Ne pas idolâtrer son travail. Je pense que pour être heureux, il ne faut pas faire de son travail l'idole de sa vie, quoi.
Vivre en ayant toujours conscience, en essayant de se souvenir que Dieu est là, présent.
Que Dieu est là et qu'il est infiniment plus important que ce que l'on fait. Et c'est la raison peut-être pour laquelle les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les églises. Ce serait toute une autre conférence à faire. Les femmes acceptent davantage de s'ouvrir à une réalité qui est déjà là. L'accueil est profondément féminin, tandis que le travail est masculin. L'aspect masculin de l'être humain, l'aspect yang, c'est davantage le travail. Tandis que la femme accepte davantage de se laisser aimer, de se laisser faire, d'accueillir le monde tel qu'il est. Dieu, on ne le fabrique pas, on l'accueille. C'est fondamental, quoi. Tout l'équilibre d'une vie humaine, je pense, c'est l'équilibre entre lutte et contemplation, aurait dit le frère Roger. Tantôt, j'ai à me battre contre le mal, dans une attitude masculine de combat, de négativité, dirait Hegel. Tantôt, j'accueille le monde tel qu'il est, je me détends, je lâche prise, j'admire les gens, j'admire le monde tel qu'il est. Il faut sans cesse passer de la décontraction à la lutte.
Face à l'adversité, est-ce que le meilleur moyen de la traverser est de lâcher, de ne pas lutter?
Il faut les deux, parce que le mal étant vraiment un mal, il faut le combattre. Tous les grands saints ont été des militants, des combattants, mais en même temps, le mal qu'ils ne pouvaient pas éradiquer, eh bien, ils acceptaient de le recevoir comme permis par Dieu. Et même, disent les saints, comme un cadeau de Dieu. Mais alors là, c'est vraiment la sainteté. Mère Teresa osait dire aux journalistes qui venaient l'interviewer, « Mes chers amis, pour moi, la souffrance, quand elle vient, c'est un cadeau de Dieu. C'est la main de Jésus qui me donne ça, pour une raison qui m'échappe. » Car j'aime rappeler que s'il y a des épreuves qui nous semblent providentielles, quand on se casse la figure et puis qu'on rencontre à l'hôpital quelqu'un qui devient sa femme, bon, c'est facile à le reconnaître, la main de Dieu. C'est facile de dire « tout est grâce », mais il y a vraiment des épreuves où l'on ne voit pas pourquoi Dieu permet cette épreuve. Moi, je ne vois vraiment pas pourquoi Dieu a permis la division des églises qui existe maintenant. Donc, devant cette division des églises, il faut travailler au rapprochement entre les églises, ce que vous faites notamment en Suisse avec beaucoup de courage et une certaine efficacité. Et en même temps, dire « Seigneur, si tu as permis cette épreuve pour ton église, eh bien... va béné, tout est grâce, je ne comprends pas, mais je ne me révolte pas trop. » Nous n'avons pas à désespérer, quoi. Et nous avons même à admirer d'avance que nous verrons dans le ciel, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Abbé Pierre d'Escouvement, une question personnelle. Comment Dieu a fait naître en vous la joie?
Eh bien, je crois que j'ai été très frappé depuis longtemps par ce texte de saint Paul. C'est très curieux, vous savez. Quand on vieillit dans la vie chrétienne, on s'aperçoit qu'on a tous un mot de la Bible à vivre. Je pense que lorsque j'arriverai aux portes de mon éternité, comme on dit, Dieu me dira, il me montrera un petit caillou sur lequel il y aura Philippiens 4:4. Il me dira, est-ce que tu as vécu cela? C'était la seule chose que je te demandais de faire. Personnellement, quand je me confesse, par exemple, presque chaque fois, je me confesse de ne pas être suffisamment joyeux. C'est à la fois mon charisme et ma tentation. Je pense que c'est très important pour les chrétiens de se rendre compte qu'ils ont tous un aspect de l'évangile à vivre à fond. Vous voyez, par exemple, vous avez des personnes qui sont très disponibles à leur prochain et qui se rendent compte qu'elles ne sont pas encore suffisamment disponibles. Et ce n'est pas du scrupule. Elles se rendent compte qu'elles doivent creuser le sillon. Bien moi, personnellement, lorsque je fais une retraite personnelle, par exemple, ça m'arrive tous les ans, de passer une semaine en ermitage tout seul pour prier, eh bien, j'ai beau faire, c'est toujours à cela que le Seigneur me ramène. Sois davantage joyeux, sache rendre grâce de tout ce qui t'arrive de bien. Ne te laisse pas accabler par les déceptions de ta vie apostolique, voyez. j'y peux rien. C'est mon charisme et en même temps mon combat. On peut être tenté du côté de son charisme. Je crois que c'est très important pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment de ne pas être étonné, d'être à la fois très attiré par un aspect de l'Évangile et en même temps d'avoir du mal à le vivre. C'est bon signe. Ça prouve que c'est cela que le Seigneur, c'est leur combat. C'est à la fois leur joie et leur combat. Vous voyez, si les gens prient pour moi, ils savent qu'ils doivent prier pour que je sois davantage joyeux.
Et cette dimension joyeuse de votre vie, est-ce que vous l'avez découvert jeune, plus tard ?
Oh, c'est difficile à dire. Je pense quand même que je l'ai découvert pendant mon séminaire, c'est certainement, au contact de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que j'ai été très frappé à 17 ans par l'histoire d'une âme, sans deviner qu'un jour j'aurais à étudier et à faire ma thèse sur elle. Cet aspect de joie était vraiment très important chez Thérèse. Il est évident qu'il y a toute une spiritualité du sourire chez Thérèse.
Abbé Pierre Descouvement, merci de nous avoir partagé ces instants autour de la joie de Dieu. Je voudrais vous demander encore un petit truc pour vivre la joie au quotidien.
Eh bien, c'est d'écouter le Seigneur nous dire à longueur de jours et d'insomnie, « Sois toujours dans la joie. Si je te le demande, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour que tu le sois. Et n'oublie pas que ma joie, c'est une participation à ma propre joie de Fils de Dieu ressuscité. Jusqu'au jour où je te dirai, viens, entre définitivement dans la joie de ton Maître et de ton Seigneur. »
Je me réjouis de vous retrouver dans cette joie éternelle.
Oh, comme c'est bien, allez dans la paix du Christ.
Avant de retrouver l'abbé Pierre Descouvement au ciel, je vous conseille de le rencontrer par l'intermédiaire des nombreux livres qu'il a écrits sur bien des sujets. Si vous allez en librairie, vous demandez Pierre Descouvement et vous aurez une grande liste de titres disponibles. Si vous souhaitez commander un enregistrement de cette émission, vous pouvez téléphoner au 026 422 18 91. Je répète, 026 422 18 91. C'était Camilla Gross qui vous souhaite un bon dimanche et vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Coin de ciel dimanche prochain à 9h. Thank you.